Chapitre 9. Touch me, it's so easy to leave me. All alone with the memory of my days in the sun. If you touch me, you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun. Memory. Cats. Ginger. J'ai rêvé de ma mère cette nuit. Cela ne m'était pas arrivé depuis des années. J'ai rêvé qu'elle était là, avec moi, dans les rues de New York, s'extasiant devant chaque façade d'immeuble, chaque escalier, chaque porte. J'étais redevenue une petite fille de 12 ans. Nous nous tenions par la main. À un moment, elle m'a demandé de ne pas bouger et de l'attendre. Elle avait un grand sourire et un regard malicieux. J'ai obtempéré. Je l'ai vue disparaître au coin d'une rue. J'ai attendu, sans m'inquiéter, puis, au fil des minutes, une boule d'angoisse est venue se loger au fond de mon estomac. N'y tenant plus, je me suis mise à courir pour la retrouver, son prénom au bord des lèvres. Mais plus je courais, et plus le coin de la rue s'éloignait. Impossible de la rejoindre. Elle m'avait laissée à nouveau. Je l'avais perdue à nouveau. Je me suis réveillée en sursaut, les joues baignées de larmes, et depuis, impossible de me rendormir. J'ai l'impression que ça fait des heures. Bien dormi ? Je demande à Lola qui finit par émerger et s'étire, non loin de moi. C'est l'avantage de ces immenses lits américains. Même en les partageant, on a l'impression de dormir seul. Comme une masse. J'ai vécu hier les émotions et les angoisses d'au moins 5 journées réunies. Alors, je crois que je me suis endormie avant même de poser la tête sur l'oreiller. Et toi ? J'ai rêvé de ma mère. Elle était ici avec moi. Et puis elle disparaissait. Oh. Quand elle est morte, je rêvais d'elle presque chaque nuit. Je me souviens que je me couchais tôt pour la retrouver au plus vite comme avant, assise sur le canapé à côté de moi. C'était souvent le même scénario. Elle et moi regardant un épisode d'une de ses séries favorites, en silence. Ça me suffisait de sentir sa présence. Et puis, au bout de quelques semaines, plus rien. Même ce réconfort m'a été enlevé. Je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire de mal pour être punie comme ça. Je n'ai jamais trouvé de réponse. C'est peut-être sa manière de t'encourager, de te dire que tu as eu raison de venir ici pour tenter de réaliser ce à quoi tu aspirais quand elle était encore avec toi. Ou alors, ce sont les métastases qui commencent à me filer des hallucinations, lançais-je pour plaisanter. Plaisanterie qui n'est pas du tout au goût de Lola, vu sa tête et ses yeux qui se remplissent de larmes instantanément. Je vais mourir, Lola. Je reprends d'une voix douce en m'approchant d'elle pour lui prendre la main. Je le sais. Et tu le sais. Je t'ai interdit de prononcer certains mots. C'était une erreur. Je n'ai pas envie que ce cancer soit un tabou ou quelque chose qui rôde sans qu'on puisse le nommer. Je veux pouvoir en plaisanter ou le maudire au besoin. Il est dans mes bagages, hélas, et fait partie intégrante de cette aventure. Dis-moi que tu comprends. Elle me fixe sans sourciller, puis un léger sourire se dessine enfin sur son visage. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi et Herbert le cancer. Par contre, moi, je meurs de faim. Le buffet du petit déjeuner a l'air démentiel dans cet hôtel. On se douche vite fait et on descend. Herbert ? J'aime bien donner des noms aux choses, ça m'aide à les apprivoiser et à les rendre moins angoissantes. Tu n'aimes pas Herbert ? Parce que ça peut aussi être Homer, Philibert ou encore Dexter. Dexter ? C'est pas le nom d'un gars dans une série, un psychopathe qui tue plein de gens ? Il me semble que si, ce serait de circonstance. Un peu trop morbide pour le coup. Je préfère Herbert, ça fait plus chanteur des années 1980. C'est un cancer qui va me tuer tout en me fredonnant des chansons d'amour. Va pour Herbert ! Tu vas réussir à manger tout ça ? Je demande à Lola qui revient avec une nouvelle assiette débordant cette fois de fruits en tout genre, pastèques, ananas, suprême d'orange. Ça va avec l'anxiété. Mine de rien, ça pompe de l'énergie d'être angoissée, il ne faut pas croire. Et du coup, après une bonne crise, je me sens affamée, m'explique-t-elle en cherchant de la place pour poser son butin, à côté de l'assiette de muffins et de mini-donuts, et de celle digne d'une parfaite américaine à base d'œufs sur le plat, de bacon grillé et d'une gaufre noyée sous le sirop d'érable. Avec mon café tiède contenant plus d'eau que de café, et sans sucre, par-dessus le marché, je fais pas le figure à côté d'elle. Pour Lola, choisir, c'est renoncer. Et renoncer, c'est angoisser. Alors, devant tant de choix, elle a dû préférer économiser de l'énergie en prenant un peu de tout, histoire de ne pas commencer la journée en ayant déjà puisé dans ses réserves. Moi qui n'ai jamais, ou pas que je me souvienne, éprouvé d'anxiété, il m'a fallu du temps pour comprendre le fonctionnement de mon amie. Je me doute que j'ai parfois dû faire preuve d'injustice et être désagréable en cherchant à la pousser dans ses retranchements. Je me suis toujours excusée dans ces moments-là et à présent, j'ai compris qu'il n'y avait qu'elle qui pouvait dire ce qu'elle était en mesure de faire ou non. Quand elle dit qu'elle ne peut pas, c'est la réalité, sans manigance ni manipulation de sa part pour obtenir autre chose. Bon appétit alors. Merci, me dit-elle en avalant une gorgée d'eau détox à base de je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'on fait sinon aujourd'hui? On commence à taper à la porte de tous les théâtres pour essayer d'obtenir un contact? S'emballe-t-elle? Aujourd'hui, on est dimanche et même à New York, on apprécie de ne pas travailler le week-end. Nos recherches peuvent attendre demain. Offrons-nous une journée complète en mode touriste? Après tout, c'est aussi ce que nous sommes un peu. De quoi aurais-tu envie? J'irais bien me promener à Central Park. Il fait beau et ce parc est un incontournable de New York. Avec un peu de chance, on croisera ces gros écureuils gris qui peuplent la ville. Et ensuite, tu vas me dire que tu veux dévaliser les boutiques de la 5e avenue? Je la charrie gentiment. Oh, tu sais, moi, les fringues, tant qu'elles sont noires et confortables, je ne suis pas une très bonne cliente. Non, j'ai juste envie de voir, de ressentir l'atmosphère qui règne ici. Et pour ça, rien de tel que de se balader dans les rues, le nez en l'air.
Lola.
Rien de tel que de se balader dans les rues, le nez en l'air. Tu parles. La vérité, c'est que j'ai une peur bleue de prendre le métro. Je n'ai jamais eu à le faire en France. Ce n'est pas pour m'y jeter comme dans la gueule du loup à peine arrivé à New York. Heureusement pour moi, tous les guides touristiques me donnent raison. Cette ville doit se découvrir à pied. Central Park, par ailleurs, n'est vraiment pas très loin de notre hôtel. Les sacs à dos chargés en produits anti-moustiques, anti-piqûres, anti-tout ce qui pourrait arriver, nous nous mettons en route. Nous remontons la 6e avenue et nous apercevons vite, dans la perspective au loin, les premiers arbres qui marquent l'entrée de ce parc rectangulaire, cerné par les gratte-ciels de toutes parts. C'est comme si l'extrême modernité avait choisi de préserver un espace vert, tout en cherchant à contrôler, à encadrer son expansion. Comme si la ville disait à la nature « Je te laisse cet endroit, mais ne t'avise pas de grignoter autour un peu plus chaque année, je t'ai à l'œil. » Et au milieu de cet écrin de verdure, un lac, dont les eaux cristallines reflètent le ciel bleu sans nuages. Je ne peux en détacher le regard. C'est si beau.
Regarde, on peut faire un tour en barque!
S'exclame Ginger en me montrant un embarcadère en bois sur lequel sont attachées de ravissantes petites barques vertes.
Ça te dit une balade sur l'eau?
Je préfère avoir les deux pieds sur terre, mais la barque semble malgré tout être un moyen de transport relativement inoffensif. Qui plus est sur un lac. Et je me sens bien. Je le réalise soudain. Je suis détendue. J'ai l'impression d'être à l'abri de tout ici. Alors j'acquiesce. Embarquer dans ce frêle esquif est moins simple qu'il n'y paraît de prime abord, rapport à l'absence de stabilité de l'eau. Il nous faut quelques minutes, entrecoupées d'éclats de rire, pour réussir à prendre place à bord sans qu'aucune de nous ne termine dans le lac. Un exploit. Et nous voilà partis. Enfin, partis est un bien grand mot. Notre cadence et notre force de pagayage étant somme toute inégales, nous faisons plutôt des ronds dans l'eau, gagnés cette fois par un fou rire irrépressible. Je finis par confier ma rame à Ginger, afin d'éviter que nous restions à tourner autour de l'embarcadère, tels des canetons en manque de repères cherchant en vain le moyen de gagner le large. Cette fois, nous voilà vraiment partis. En quelques coups de rame, nous sommes lancés. Partout où se posent mes yeux, j'aperçois des arbres majestueux qui semblent tous plus ou moins centenaires, certains si larges qu'ils se referment les uns sur les autres de part et d'autre des allées, formant comme un toit en dessous duquel aiment courir les joggers, de la verdure, des massifs fleuris. C'est si calme. Ça ne m'étonne pas que les habitants de cette ville soient autant attachés à ce lieu. Une colonie de canards vogue non loin de nous. Je me détends et respire à plein poumon. Soudain, au détour d'un coup de rame, apparaît devant nous le Bow Bridge, ce long pont qu'on voit dans tous les films romantiques.
C'est pas sur ce pont que Peter Parker s'apprête à faire sa demande en mariage à Angie et qu'elle le quitte ?
S'interroge Ginger. Intéressante cette référence cinématographique, bien loin de l'univers des comédies musicales. Il faut varier les plaisirs. En ce qui me concerne, je pensais plutôt à un film plus romantique, comme Un automne à New York, avec Winona Ryder et Richard Gere. Ou encore à cet épisode de Glee, dans lequel Finn attend Rachel avec un bouquet de fleurs. « Je préfère Spider-Man », me rétorque Ginger. « Tobey Maguire est tellement sexy dans son costume d'araignée. » « Et Richard Gere, alors ? Si ça, c'est pas un homme sexy, je sais pas ce qu'il te faut », m'offusquai-je. « Il a au moins 97 ans, non ? T'exagères, il est pas si vieux. Alors que ton Tobey machin chose, là, il a l'air d'avoir 14 ans. Je suis sûre que tu enfreindrais une douzaine de lois en couchant avec lui. » Elle rit. Nous passons sous le pont. Puis Ginger se met à fredonner à voix basse. « Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. » Je l'écoute en silence, subjuguée comme à chaque fois par la beauté de sa voix. Petit à petit, elle chante plus fort, elle s'anime, pour ne pas dire s'enflamme avec ses rames que je réussis néanmoins à lui subtiliser avant que son énergie ne nous fasse chavirer. Et je la rejoins sur les dernières paroles, pour une fois que je les connais. « And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York. » Je donne tout ce que j'ai, fais durer la note jusqu'au décès de mes poumons. Moi, Lola, je viens de chanter ailleurs que dans ma salle de bain, donc en présence d'un tas de personnes susceptibles de m'entendre. Notre aventure américaine est définitivement lancée. « Tu ne trouves pas que ce nuage ressemble à un éléphant sur une moto ?» me demande soudain Ginger, me tirant de ma somnolence. Après notre balade en barque, nous avons acheté deux salades avocat homard au Loeb Boathouse, en prévision de notre pique-nique à venir. Puis nous avons arpenté les allées du parc, à la recherche des écureuils qui, à mon grand regret, n'ont pas voulu montrer le bout de leur museau moustachu. Nous sommes montés sur l'Empire Rock pour profiter de la vue panoramique sur les buildings. Avons admiré la fontaine de Bethesda et sa statue d'ange de l'eau au sommet, avec une nouvelle fois cette sensation d'être propulsé au beau milieu d'un film, cherchant presque Kevin McAllister et la dame au pigeon du regard. Malgré moi, j'ai pensé à ma mère. Je me suis dit qu'il fallait que je lui envoie un message. Avant que je n'embarque dans l'avion, elle m'a fait promettre de lui écrire des textos deux fois par jour sous peine de révision de son testament. Allongée dans l'herbe, après avoir englouti nos salades, nous sommes restées silencieuses jusqu'à la question incongrue de Ginger. Un éléphant sur une moto ? C'est le homard qui te donne des hallucinations pareilles ? Mais si, regarde là ! Insiste-t-elle. On dirait bien une trompe d'éléphant et ce truc en dessous, une moto. Même si maintenant, ça ressemble plus à une trottinette. C'est de ta faute aussi, t'as pas été assez rapide. Évidemment que ça ressemble presque plus à rien, soupire-t-elle, dépitée. À côté de nous, un groupe d'une dizaine d'amis s'amuse et rit à gorge déployée, quand tout à coup l'un d'entre eux entraîne une fille à l'écart, avant de mettre un genou à terre pour la demander en mariage. Tout le monde retient son souffle, suspendu aux lèvres de la fille dont le sourire ne trompe pas. Le baiser remplace la réponse et elle se jette à son cou. Surgit alors de derrière un énorme bosquet une fanfare de musiciens en costume blanc rayé de rouge, sans doute commandé par le futur époux, planqué là depuis peut-être des heures dans une position inconfortable, dans l'attente d'un signe de sa part. J'applaudis, ému aux larmes comme si je connaissais le couple en question. Je me tourne vers Ginger. Mon amie s'est endormie, la main sur l'estomac, une jambe relevée. Ce n'est pas le bruit qui manque pourtant, mais Ginger ronflotte. Je m'apprête à la réveiller pour me moquer d'elle, mais quelque chose cloche et suspend mon geste. C'est sa mâchoire. Elle est crispée, comme si elle souffrait. Une goutte de transpiration perle sur son front. Soudain, c'est tout son corps qui se raidit. Sa main agrippe l'étoffe de son t-shirt. Je suis tétanisée, incapable de savoir s'il faut que j'intervienne ou non. Et puis, d'un coup, la tension se dissipe. Sa mâchoire ainsi que sa main se détendent, son corps s'apaise. Nous sommes à New York. Ce serait magique pour n'importe qui. Ça ne l'est pas pour Ginger. Parce qu'elle est malade et qu'il ne lui reste peut-être plus beaucoup de temps. Je n'ai pas pu préparer ce voyage comme je l'aurais voulu. À la manière de la mère de Ginger, en étudiant tous les quartiers, en épluchant les guides touristiques, en notant avec précision chaque adresse, chaque restaurant, chaque lieu à visiter. Dans l'idéal, il m'aurait bien fallu 6 mois pour organiser notre périple, en optimiser, pour ne pas dire sécuriser, chaque minute. J'ai à peine eu 3 jours. Malgré cela, le restaurant Helen's Stardust Diner est toujours sorti dans mes résultats de recherche. Je n'ai donc pas hésité quand Ginger m'a demandé si j'avais une envie particulière pour le dîner. L'endroit est bondé, mais le serveur qui nous accueille réussit à nous dégoter une petite table au bout de quelques minutes d'attente seulement. Nous prenons place sur des banquettes en cuir de couleur rouge, avec cette impression d'avoir fait un bond dans le passé, époque Happy Days et années 1950. Les photos des icônes rock affichées partout sur les murs du restaurant jouent à fond la carte de cette nostalgie. Ici, tous les serveurs sont des chanteurs professionnels, j'explique à Ginger. Chaque année, certains sont repérés par des dénicheurs de talent et font ensuite carrière à Broadway. C'est pratique quand on y pense. Hop, il y a juste à traverser la rue. Une fois qu'on aura dîné, on pourrait les interroger sur la manière de s'y prendre pour décrocher un rôle au théâtre. Peut-être qu'on aura la chance d'obtenir les coordonnées d'un producteur ? Je m'emballe. C'est plus fort que moi. Je suis submergée par l'ambiance, l'effervescence du lieu. Ginger, elle, a les yeux rivés sur la carte, mais je peux deviner aux palpitations des veines de son cou qu'elle est tout aussi excitée que moi. Je ne lui ai rien dit sur l'épisode du parc tout à l'heure. Je n'ai pas réussi à trouver les mots. Cette découverte que Herbert, malgré son nom charmant, l'a fait souffrir, ne quitte pas mon esprit. Après étude de la carte, nous commandons toutes les deux, enfin, c'est le choix de Ginger, moi je me contente d'acquiescer, bien trop heureuse qu'elle n'ait pas des goûts trop bizarres, un Brooklyn Pride, un bagel arc-en-ciel à base de brouillé et de fromage américain fondu, ainsi qu'un hot fudge milkshake vanille et sauce chocolat. Soudain, les premières notes de Blame It on the Boogie retentissent, déclenchant les applaudissements et les acclamations des clients. À quelques tables de nous, un serveur se met à chanter ce tube des Jackson 5, accompagné par tout le restaurant. Ginger sourit jusqu'aux oreilles, les yeux brillants. Et moi, je suis heureuse pour elle. Embarquée dans sa chanson, le serveur grimpe sur une banquette et nous invite à répéter après lui « Sunshine, moonlight, good times, boogie ». Sa voix est magnifique et son énergie si communicative que nous n'accordons pas le moindre regard à la serveuse qui dépose les plats devant nous. Je me disais que ça devait être sympa ce restaurant, mais j'étais loin de me douter de cette ambiance et de la qualité des chanteurs. Tu as vu comme il envoie ce type ? Dis-je à Ginger tout en attrapant ma fourchette et mon couteau. Oh, vous êtes française ? Gorgeous ! Voilà qui va me permettre de parler avec d'autres gens que ma mère, pour une fois, lance la serveuse avant de rire. Votre mère est française ? Lui demande Ginger. Plus par politesse que par intérêt, me semble-t-il, car toute son attention est captée par le spectacle. Oui, elle est venue en voyage aux États-Unis, ici à New York. Elle est tombée amoureuse de mon père et n'est jamais repartie. Je suis née ici, mais depuis toujours ma mère parle à moi en français. Et mon père en anglais. Ils vivent à Boston, alors je ne les vois plus beaucoup. C'est dommage, je pense qu'aujourd'hui je ne connais plus très bien mon français. Alors je suis heureuse de parler avec vous ce soir. Vous me corrigez si je fais des mistakes, n'est-ce pas ? Nous demande-t-elle avec enthousiasme et une visible sincérité. Moi c'est Johnny. Enchantée Johnny. Je suis Ginger et voici mon amie Lola. Elle termine de disposer nos verres ainsi que le pain que nous lui avons demandé, quand soudain c'est son tour. Elle réajuste son micro-casque et entonne une chanson que je connais, mais dont je suis incapable de retrouver l'interprète. Je suis aussitôt fascinée par l'aisance de Johnny, tant sur le plan vocal qu'artistique. On dirait qu'elle nous raconte une histoire et que c'est d'une simplicité enfantine pour elle. Quand elle pousse sa voix et que les dernières notes de la chanson s'envolent, je suis submergée par l'émotion et ne peux retenir mes larmes. C'est, je crois, la première fois qu'une performance vocale me bouleverse autant. La musique s'arrête et j'applaudis avec ardeur, ce qui fait rire Ginger. Johnny revient alors vers nous, tout sourire, et reprend comme si de rien n'était son rôle de serveuse. Je cherche en vain les mots pour lui exprimer ce que j'ai ressenti en l'écoutant. C'était extraordinaire. Vous chantez si bien. On aurait dit une vraie chanteuse. Non pas qu'en travaillant ici, vous n'êtes pas une vraie chanteuse, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bafouillais-je. En fait, c'est comme si vous étiez sur une vraie scène. Je me sens rougir comme une tomate au soleil, et complètement cruche. Ginger, elle, reste silencieuse, mais ne rate pas une miette de ce désastre. Le sourire qui envahit le visage de Johnny fait briller ses yeux. « Je vous souhaite une bonne appétit !» nous dit-elle avec un clin d'œil avant de se diriger vers les deux portes battantes qui doivent mener à la cuisine. « Eh bien !» Elle te fait de l'effet, cette Johnny. Je vire au cramoisi. N'importe quoi, c'est juste que j'ai trouvé qu'elle chantait incroyablement bien. Pas toi ?
Si, si, bien sûr.
Incroyablement bien, répète Ginger. Et en plus, elle est très jolie.
Ah oui ? Je n'ai pas fait attention.
Cette fois, Ginger éclate de rire. Vexée, je coupe un bien trop gros morceau de mon bagel que j'enfourne tel quel dans ma bouche avant de m'étouffer à moitié.
« Bois ça !» dit Ginger en me tendant un verre d'eau fraîche.
« Il me faut quelques minutes pour me reprendre. » « Pardon, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. S'excuse mon ami. »
« Tu n'as pas à t'excuser, si tu m'avais mise mal à l'aise, et ce n'est pas le cas. Tu pourrais me demander pardon, mais tu n'as rien fait de mal. »
Nous sommes interrompus par les notes d'une nouvelle mélodie. Cette fois, c'est à l'autre bout du restaurant qu'un serveur monte sur une table pour faire son show, l'occasion parfaite pour changer de sujet de conversation.
« Je me disais qu'on pourrait aller t'inscrire dans cette école de danse devant laquelle on est passé hier. Si proche des théâtres, il y a forcément des danseurs, voire des chanteurs qui s'y entraînent. Qu'en dis-tu ? »
« Ça me semble être une bonne idée, en espérant qu'il n'y ait pas de test de niveau pour intégrer un cours.
Pourquoi ? »
« Je suis nulle, mais alors nulle de chez nulle, souple comme une barre de fer et gracieuse comme une vache laitière. Si tu ajoutes à cela la coordination d'une pomme de terre, tu approcheras de mon niveau en danse. »
« La coordination d'une pomme de terre ?» demandai-je avant d'éclater de rire à mon tour.
« Oui, je n'ai rien trouvé de mieux comme comparaison. Tu ne visualises pas une pomme de terre en reine du dancefloor ? C'est normal, parce qu'une pomme de terre, dans le meilleur des cas, ça se transforme en frite, et une frite, ça danse pas. »
Voilà qui nous promet un grand moment demain.